Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur si noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canut tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous faisons une carte blanche à Louise Buenafuente et Cécile Hernandez. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous faites partie du chantier collectif que nous avons reçu il y a quelques temps. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur le blog du Théâtre de la Gamelle. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un de vos projets qui s'intitule « Paroles poétiques ». Donc, c'est un montage de plusieurs poésies que vous avez fait et que vous allez jouer plusieurs fois là sur le mois de mars et avril. Le 18 mars au Nombril du Monde, le 20 mars à la Mouche m'agace l'oreille gauche, qui est montée de la Grande Côte, et le 3 avril à Agendar, à Croix-Rousse. Voilà, peut-être avant de parler de ce projet, je vous propose, auditeurs, d'écouter cette lecture qu'elle nous propose pour la radio aujourd'hui. Bonne écoute à tous.
Mon cocon me serre. Les couleurs me taquinent. J'aspire à l'air. Une vague envie d'aile titille la robe que je porte. Pouvoir de papillon, sans doute. L'aptitude à voler suppose des chants de majesté ou de tranquilles versants de ciel. Aussi, je dois dépister l'indice
et sonder le signe
et mettre les pieds dans le plat si enfin
je trouve le fil divin.
Mon cocon me serre, les couleurs me taquinent, j'aspire à l'air, une vague envie d'aile
titille la robe que je porte.
Mon cocon me serre.
Titille la robe que je porte.
Les couleurs me taquinent.
Titille la robe que je porte.
J'aspire à l'air.
Titille la robe que je porte.
Une vague envie d'aile.
Titille la robe que je porte.
Pouvoir de papillon sans doute.
Titille la robe que je porte.
L'aptitude à voler.
Titille la robe que je porte.
Suppose des chants de majesté.
Titille la robe que je porte.
Ou de tranquilles versants de ciel.
Titille la robe que je porte.
Aussi je dois dépister l'indice.
Titille la robe que je porte.
Et sonder le signe.
Titille la robe que je porte.
Et mettre les pieds dans le plat si enfin
titille la robe que je porte.
Je trouve le fil divin.
Mon cocon me serre.
Titille la robe que je porte.
Les couleurs me taquinent.
Titille la robe que je porte.
J'aspire à l'air.
Titille la robe que je porte.
Une vague envie d'aile.
Titille la robe que je porte.
Pouvoir de papillon sans doute.
Titille la robe que je porte.
L'aptitude à voler.
Titille la robe que je porte.
Suppose des chants de majesté.
Titille la robe que je porte.
Ou de tranquilles versants de ciel.
Titille la robe que je porte.
Aussi je dois dépister l'indice.
Titille la robe que je porte.
Et sonder le signe.
Titille la robe que je porte.
Et mettre les pieds dans le plat si enfin
titille la robe que je porte.
Je trouve le fil divin.
Titille. Titille la robe que je porte.
Les couleurs me taquinent.
Pouvoir de papillon sans doute.
Titille la robe que je porte.
L'aptitude à voler.
Titi la robe que je porte.
L'aptitude à voler.
Titi la robe que je porte.
J'aspire à l'air.
Que je porte. Titi la robe que je porte.
Mon cocon me serre.
I-I-A-O-E-E-E-A-E.
Titi la robe que je porte.
I-I-A-O-E-E-E-A-E.
Titi la robe que je porte.
I-I-A-O-E-E-E-A-E.
L'aptitude à voler.
Titi la robe que je porte. Emily Dickinson.
Elga Novak.
L'absente.
Complainte de décembre.
Blaise Sandrart.
Pourxaki.
Francis éponge, compliment à l'industriel.
Sur un sujet d'ennui.
Tristan Corbière.
La pipe au poète. Claude Roy.
Ombre.
Élégie des deux ombres à la traîne. Aujourd'hui, je cherchais ma clé. Quand je l'ai retrouvée dans mon sac plein, ma porte m'a semblé clouée et je n'ai pas osé l'ouvrir. J'ai cassé un carreau. Je suis entrée par la fenêtre et j'ai rebouché le trou avec du papier journal tout neuf. Quand j'ai cherché une chaise, quand j'ai retiré mes affaires, j'ai cru que la chaise n'avait que trois pieds et je n'ai pas osé m'asseoir. Je suis allongée sur le sol et, pour la première fois, vois le plafond s'affaisser. Appelez, frappez, même si vous me faites monter sur le toit, je ne suis plus chez moi.
Aujourd'hui, m'est venue à l'esprit une pensée que j'ai déjà eue il y a un moment. Une pensée avortée, je ne sais plus en quelle année, ni où elle est partie, ni pour quelle raison elle est revenue. Ce qu'elle était vraiment, je n'ai pas l'art de le dire. Mais quelque part, dans mon âme, je sais que j'ai déjà rencontré cette chose qui s'est rappelée à moi, c'est tout, et n'a plus croisé mon chemin. La guillotine
est le chef-d'œuvre de l'art plastique.
Le chef-d'œuvre de l'art plastique.
La guillotine est le chef-d'œuvre de l'art plastique.
Son déclic crée le mouvement perpétuel.
La guillotine est le chef-d'œuvre de l'art plastique. Son déclic crée le mouvement perpétuel. Nous étions sûrs de n'avoir rien oublié. Nous avions un à un ouvert les placards, tiré tous les tiroirs, regardé sous les lits avant de laisser les clés à la voisine. Objet par objet, tu avais vérifié l'inventaire joint au contrat de location. Nous avions remplacé la soupière cassée et les deux tasses à café par de la vaisselle presque pareille. Quelle émotion quand, au moment du départ, une demi-heure avant que le bateau appareille, nous découvrîmes l'absence de la chatte qui revint un pas vide à l'ultime seconde, juste à l'instant du deuxième coup de sirène. La sale bête, hein, ce qu'on peut l'aimer malgré tout. Maintenant, dans la maison humide de l'hiver où la cornière des gouttières est bouchée par des feuilles mortes, dans la maison noire aux volets fermés où les souris font la sarabande, il n'y a plus personne. Sinon, par intermittence, un vieux reste de toi et de moi qui parle à voix basse et ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent est devenu dérisoire.
Mon maillot noir n'est pas très sec. Où ai-je mis l'autre, le bleu ?
Ce qu'on pourrait faire, ce serait pique-niquer sur la plage.
J'ai perdu mon peigne vert. J'ai dû le laisser dans le sable à Donnant. Ça m'ennuie parce que je l'aimais bien. Mais un reste de toi ou un reste de moi s'arrête au milieu d'une phrase sans importance en pensant. Ce n'est plus la peine, nous sommes des soucis, des pensées, des mots à la traîne. Le vrai toi et le vrai moi sont bien loin. Ils nous ont oubliés, ils ont autre chose en tête. Nous deux, dans la maison humide et noire, nous sommes seulement des cendres de temps mort, le chuchotis du jamais plus. De voyageurs qui ont manqué le train sur le quai d'une gare désaffectée depuis si longtemps que l'herbe pousse sur la voie. Et qui peu à peu, en si peu d'existence, que même pas Dieu pour pleurer. dans la maison humide et noire qui se souvient à peine du grand soleil d'été. Le chef-d'œuvre de
l'art plastique. Son déclic crée le mouvement perpétuel.
La guillotine, tine,
tine,
est le chef-d'œuvre de l'art plastique. Plastico, l'art plastique.
Son déclic crée le mouvement perpétuel.
De grandes choses ont eu lieu entre les gens ces temps derniers, quand la plupart se voyaient uniformes.
Il s'est formé des tas de corps lourds à traîner, des tas d'expressions, des choses à dire.
Et il faut bien, pourtant, les déplacer. En faire des arrangements.
Il faut soigner publiquement leurs traces.
La guillotine est le chef-d'œuvre de l'art plastique.
Son déclic crée le mouvement perpétuel.
La guillotine
est le chef-d'œuvre de l'art plastique.
Le chef-d'œuvre de l'art plastique.
Son déclic crée le mouvement perpétuel.
La guillotine est le chef-d'œuvre de l'art plastique. La guillotine est le chef-d'œuvre de l'art plastique.
Son déclic crée le mouvement perpétuel. Publicité.
Publicité, publicité. Les lampes à arc saignent sur la ville.
Seuls les journaux sont noirs. Sire.
Oui.
Votre cerveau peut paraître pauvre. Meublé de tables plates.
Hein?
De lumières coniques tirant sur des fils verticaux.
Verticaux?
De musique à cribler l'esprit commercial.
Commercial.
Mais votre voiture.
Oh!
Autour de la terre promène visiblement Paris.
Oh, Paris!
Comme un gilet convexe.
Oh!
Barré d'un fleuve de platine. Et où pend la tour Eiffel avec d'autres breloques célèbres.
Oh, Paris, la tour Eiffel!
Et lorsque, revenant de vos usines déposées au creux des campagnes comme autant de merde puante, vous soulevez une tapisserie et pénétrez dans vos salons,
ça fait du bien d'être chez soi.
Plusieurs femmes viennent à vous. Vêtues de soie.
Sexy.
Comme des mouches vertes.
C'est chaud ce soir.
Il veut que je meure.
Vous, les mouches mortes sous les fenêtres. Vous, les paralysés dans le rideau.
Il veut que je meure. Il veut que je sois morte.
Il veut que je sois morte.
Il est assis sous la lampe à ultraviolet et dit : tu as volé le solstice d'été. Et il veut que je meure. Et il veut que je sois morte.
Il veut que je sois morte. Vous, les corbeaux au-dessus du glacier, les teux que la moraine décrit.
Il veut que je sois morte. Vous, les mots débités à la lame de patin à glace.
Quand partons-nous d'ici ?
Celui qui marche avant, le soleil dans les yeux. Son ombre le suit.
Il ne voit pas son ombre.
Il fait halte.
Elle s'arrête.
Il marche.
Elle repart.
Il ne sait pas qu'il est suivi.
Il ne sait pas qu'il a ce double. Les mots, quand ils ont du soleil plein les yeux, les mots de colère et les mots de tendresse,
paroles de fureur contre le mal à mille têtes,
paroles de feu pour approuver
le oui qui fait tourner la terre. Les mots ont leur ombre, leur envers dérobé au parleur. L'ombre ne dément pas la parole qu'elle ombre.
Mais la ressource et la racine et la soutient, car pareil à l'homme qui a perdu son ombre,
la parole sans ombre s'évapore au soleil.
Le cerveau est plus grand que le ciel. Mettez-les côte à côte. L'un contient l'autre sans problème, et vous en plus.
Le cerveau est plus profond que la mer. Tenez-les bleu pour bleu, l'un absorbe l'autre. comme l'éponge l'eau d'un seau.
Le cerveau pèse exactement le poids de Dieu. Soupesez-les, livre par livre.
La différence, si elle existe, est celle de la syllabe au son. Je suis la pipe au poète.
Est-ce la pipe ?
Suis.
Est-ce la pipe d'un poète ?
Suis la pipe d'un poète.
Mais suis la pipe d'un poète.
Est-ce ?
Suis. Oh, la pipe d'un poète.
Je suis la pipe d'un poète.
Je suis la pipe d'un poète.
Sa nourrice.
Et j'endors sa bête.
Quand ses chimères éborgnées viennent se heurter à son front,
je fume. Et lui, dans son plafond, ne peut plus voir les araignées.
Je lui fais un ciel, des nuages,
la mer,
le désert,
des mirages.
Il laisse errer là son œil mort.
Et quand lourde devient la nuit,
il croit voir une ombre connue.
Et je sens mon tuyau qu'il mord.
Un autre tourbillon délie son âme,
son carcan,
sa vie.
Et je me sens m'éteindre.
Il dort.
Dors encore. La bête est calmée.
File ton rêve jusqu'au bout.
Mon pauvre, la fumée est tout.
S'il est vrai que tout est fumé.
Claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Quand il ne se balade pas sur toi, je ne sais que faire de mes dix doigts. Je ne sais que faire de mes dix doigts. Alors je les claque, 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 claque devant les jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Devant le jukebox. Oh, j'en ai ma claque, 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 claque de ce gars jukebox, jukebox. Si jamais il s'approche du jukebox, 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 je lui claquerai la gueule devant le jukebox.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et vous venez d'entendre les voix de Louise Buenafuente et Cécile Hernandez. Merci à toutes les deux pour cette lecture. Alors, vous êtes venues avec cette lecture parce que, donc, comme je le disais en début d'émission, vous allez la présenter le 18 mars au Nombril du Monde, le 20 mars à la Mouche Magasse l'oreille gauche et le 3 avril à Agenda. On reviendra exactement sur les horaires de ces trois dates. Donc il s'agit d'une lecture, c'est ça ? Pas d'un spectacle, mais vraiment d'un format lecture ?
À moitié, en fait. On était parti sur l'idée d'une lecture et vite, on s'est rendu compte qu'à l'oral, il y avait des choses qu'on avait envie de s'approprier, des choses qui naissaient toutes seules. Voilà, vivre le poème et...
Du coup, on n'a pas complètement abandonné la lecture, puisqu'il y en a certains dont on a besoin des textes, mais il y en a complètement où on est libéré des textes et on les a travaillés, on se les a appropriés et on les a. Du coup, on a oublié la feuille pour ça, quoi.
Donc, je rappelle, c'est un montage de textes. Il y a plusieurs auteurs. Est-ce que vous pouvez peut-être les reciter ? Vous les avez cités à l'intérieur même de la lecture, mais peut-être redonner leur nom.
Alors, on a Emily Dickinson.
Elga Novak,
Tristan Corbière,
Claude Roy,
Blaise Sandrars
et Francis Ponge.
Voilà.
Voilà. Comment vous avez choisi ces textes-là ?
Alors du coup, on est parti de nos envies déjà. On s'est retrouvés, on a amené les textes qui nous parlaient, ceux qui nous touchaient. Et puis après, la sélection s'est faite naturellement par le choix des auteurs et des textes. Enfin,
oui, voilà, on est venu avec déjà des auteurs qu'on avait en nous, enfin qu'on aimait, et puis on a voulu aussi rester un peu libre par rapport à ça. On s'est pas vraiment donné de contraintes par rapport au choix.
Alors justement, la seule contrainte qu'on s'est donnée, c'est quand on s'est aperçu qu'il n'y avait que des auteurs hommes dans nos choix, et qu'on s'est dit non, mais il faut absolument qu'on y mette des femmes, en fait.
Quand même.
Oui. Et ce qui est super drôle, c'est qu'au final, les deux, Emily Dickinson et Elga Novak, les seules auteurs femmes de la sélection, c'est vrai que ce sont les auteurs qu'on a travaillé tout de suite assez facilement, avec lesquels on a vraiment trouvé un langage sonore très rapidement, en fait.
Vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait cette émission, que c'était un peu une sorte de lecture performance. Ce côté performance, comment il se traduit ?
On peut dire qu'il se traduit avec l'improvisation, en fait, les choses qui sont écrites mais dont on se libère et on cherche dans le présent au moment où on est là et où on cherche les textes, comment les dire en direct. Je pense que le côté performatif, il est là-dedans.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte aussi que sortir de l'écrit, donc mettre ces textes à l'oral, c'était carrément une traduction. Il y a eu des choses qui sont nées qui étaient assez musicales, rythmiques, voilà, par le son. Il y a plein d'autres choses qui nous arrivent qu'à l'écrit, et donc voilà, c'est chercher comment vivre toutes ces choses là. Et que voilà, ouais, c'était carrément un autre langage, en fait, à l'oral.
Oui, entre nous, du coup, on se disait, c'est une traduction pour le présent, en fait. C'est quelque part, on est des traducteurs de l'écrit vers l'oral, en fait.
Mmh. C'est redonner sens aux mots. J'ai entendu et j'ai vu, parce que j'ai le privilège de voir, que vous travaillez sur de la répétition.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça change un peu le sens. Et presque, on n'entend plus le sens du mot, mais on entend sa musicalité.
Ouais.
Donc, il y avait cette volonté de travailler autour de ça.
Oui, ouais, la répétition, je pense que ça fait, enfin, nous, ça a fait naître des choses, ouais.
En fait, on voulait pas forcément traduire les intentions, parce qu'en fait, dans la poésie, il n'y a pas juste une intention comme un texte de théâtre avec une, peut-être une psychologie du personnage, ou, et du coup, les poèmes, c'est des mots avant tout. Et du coup, on voulait essayer de pousser jusqu'au bout le sens des mots pour faire inscrire une nouvelle, un nouveau sens, justement, quelque chose qui apparaît comme ça, par la répétition, par la modulation des sons. Des...
Pour le premier, par exemple, mon cocon me serre, et là où on répète Titi, la robe que je porte, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de musical. Par le fait d'insérer ça, ça mettait voilà, un rythme, quelque chose qui était de l'ordre de, ouais, de la musique. Donc c'est peut-être à ce moment-là que je dirais qu'on n'a plus tellement le sens du mot, mais c'est une espèce de matière sonore qui se fait. Et à l'inverse, j'ai l'impression que celle où, que si on répète « il veut que je meure, il veut que je sois morte », qu'on malaxe le sens aussi. Mmh.
Après, oui, je pense que c'est, on s'est vraiment dit, mais libérons-nous, enfin, approprions-nous ces mots-là, n'ayons pas peur, même si ce sont des grands auteurs qui ont, et inscrivons-nous à l'intérieur de ça, et c'est comme ça aussi que oui, on a voulu s'approprier les choses, et moi je trouve ça assez beau parce que finalement, avec Emily Dickinson, enfin, du coup, on réentend des choses dans les textes, enfin, ces voix-là, elles sont sans âge, elles sont sans époque. Enfin, il y a un truc un peu intemporel qui en ressort. Et du coup, je pense que la poésie, il y a de ça dans la poésie.
Oui, elle reste toujours actuelle, si j'ose dire. Elle est toujours présente parce que les mots sont toujours présents.
Oui, oui, ouais. Ça s'inscrit ici et maintenant, sans se préoccuper de quand est-ce que ça a été écrit, pourquoi. Il y a un truc qui est là, et je crois que l'art de la poésie, c'est l'ici et maintenant, et c'est la question du présent avant tout, quoi.
Et après, c'est un travail musical, en fait. Ouais, vraiment une partition. C'est comme une partition musicale, quoi. Avec cette sensation, enfin c'est la sensation que j'ai eue là, cette sensation de cœur à un moment donné, où presque si j'avais juste écouté, j'aurais eu la sensation que vous étiez plus que deux à certains moments. Ça donne cette impression-là. Comment vous avez travaillé? D'abord, il y a un travail donc de recherche sur les textes, lesquels on fait, on les choisit.
Ouais.
Et après, quelles sont les différentes étapes de travail?
Ça a été assez différent en fonction des textes.
Oui, enfin la première étape, c'était vraiment de venir avec les textes qu'on avait éventuellement envie de travailler, voir vers quoi on pouvait aller avec ces textes-là.
On a fait un petit travail à la table aussi pour chacun d'eux, essayer de décortiquer parce qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément évidents. Je sais pas, il y a des choses qui sont nées. Toi, par exemple, pour Titi, c'est venu chez toi.
En travaillant à deux, il y a des choses qui sont nées à deux, et puis d'autres qu'on a apportées chacune de notre côté pendant les séances de travail. Notamment, mon cocon me sert. J'ai été inspirée par plusieurs personnes. Enfin, moi, je pense notamment à Camille, par exemple, dans son travail de répétition, son travail vocal. Enfin, moi, ça j'aime beaucoup. Et du coup, il y a peut-être, c'est venu peut-être de là aussi. Mais on a travaillé pendant une semaine de manière intensive à l'Entre Autres, qui nous a permis de jouer pour la première fois d'ailleurs au café L'Entre Autres. Et puis voilà, on a cherché des idées, comment dire. Ça a été pour le compliment à l'industriel aussi. Enfin, on s'est posé des questions parce que on s'est dit, mais il y a plein d'images dans ce poème. Donc, le compliment à l'industriel, c'est le cire. Du coup, voilà. En fait, à chaque fois, on s'est posé la question de la traduction. Comment dire ces textes-là pour qu'ils soient entendus, pour que les gens ne partent pas dans leur tête ailleurs et pour qu'ils restent ici avec nous, ici et maintenant, quoi.
Puis leur donner une autre dimension aussi, comme une 3D d'un coup. Si le mot sortait du livre en 3D, quoi.
Mais complètement, oui.
C'est l'idée. Du coup, ce projet, il est né comment?
Une envie de travailler ensemble.
Donc, on fait partie du chantier collectif avec Louise. Et du coup, au sein de ce collectif, on se permet chacun de faire des projets. Et voilà, on avait envie de porter des projets avec Louise. Parce que c'est la première fois, c'est le premier projet qu'on porte, en fait, chacune.
Et oui, dont on est à l'initiative.
Dont on est à l'initiative. Et c'est vrai qu'en tant que comédienne, on a été beaucoup choisies pour des travaux très corporels dans le théâtre.
Ouais, du masque, des choses comiques.
Physiques, comiques. Ouais. Et en fait, on avait simplement envie de pouvoir choisir les choses vers lesquelles on pouvait aller. Mm-hmm. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on travaille le texte, absolument.
Ouais. Et pourquoi la poésie alors, du coup?
Mais
plus que des textes de théâtre,
on l'avait en commun. Mais je crois
que c'est parce qu'au final, on se ramène au corps à chaque fois, enfin mine de rien, parce qu'au final, on a voulu aller vers le texte, mm-hmm. mais au final, je me rends compte que c'est, en fait, on est allé vers du texte, mais du texte très corporel finalement, et la poésie ramène au corps, je trouve.
Ouais, il y a une espèce de mystère aussi dans la poésie qui appartient à chacun et c'est on n'a jamais fini de l'explorer. Moi, je trouve ça passionnant.
Oui, 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 oui. Ce mystère-là, on a voulu essayer de voir comment notre manière, on pouvait percer le mystère de la poésie.
Ouais.
C'est vrai qu'un poème, c'est comme une chanson. Il nous parle pas à tous de la même manière selon ouais. notre vécu. Mm-hmm. Il nous raconte des choses et selon les périodes d'ailleurs. Un même poème ou une même chanson, on l'écoute à telle ou telle période et elle fait pas écho de la même manière à chaque fois. Ouais. Mm-hmm. C'est vrai.
Oui, c'est toujours une question de sens, je crois. Ben voilà, par rapport à ce que tu dis, à un moment donné, pourquoi à un moment donné ce poème ou cette chanson, elle va prendre du sens parce que j'aurais vécu les choses qui feront que je pourrais la comprendre ou qui m'indiqueront un sens, ce sens-là, alors qu'avant c'était un autre en fait.
Et ouais, j'aime assez cette idée que chaque auditeur ou spectateur y met son sens à lui, mm-hmm. qu'on fait en sorte d'exprimer des choses que eux ressentent. Et c'est Eri De Luca, je crois que j'ai lu un truc de lui récemment où il disait que il avait envie de porter la parole de gens qui n'avaient pas forcément la parole et je trouve que ça se rapproche un peu de ça, qu'on porte des paroles, les paroles de chacun en fait, parce que chacun y met son sens
mais,
à lui.
Mais je pense que c'est exactement ça. Enfin, puis même dans l'intention d'écrire, à un moment donné, le poète ne se pose pas la question de à qui. Enfin, il écrit au monde, en fait. Et du coup, comme un poète écrit au monde, on a envie de dire ses mots au monde aussi. Enfin, c'est mettre au monde, en fait.
C'est comme dans beaucoup de formes artistiques, finalement. Je pense à la peinture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on s'approprie aussi ce que nous raconte une toile, le sentiment qui nous véhicule, enfin, qui nous renvoie de... C'est vrai qu'on s'approprie et la poésie permet ça assez facilement.
Oui, oui, parce qu'en fait, les sens sont assez vastes pour, enfin, le champ est énorme en fait. Et du coup, c'est ce champ, c'est ce grand champ qui permet d'y mettre ce qu'on peut, ce qu'on veut, ce qui apparaît au moment où on le rencontre, le poème.
Et alors du coup, je précise pour nos auditeurs qui nous ont pas pris en route et qui ont pu entendre la totalité de la lecture, que vous l'avez adapté pour la radio aujourd'hui, parce que c'est quand même un peu différent ce que vous allez faire. Ça amène cette question aussi, est-ce qu'il y a un dispositif scénographique pour cette lecture ?
Oui, 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 il y en a un et ça va aussi dans le sens où on a capté qu'il y avait des choses musicales. Du coup, on travaille avec des pupitres, comme derrière une partition, des pupitres dont on parle, dont on s'échappe aussi. On s'en sert, c'est un peu notre base scénographique. Dramaturgique.
Après, on parlera plus de mise en espace que de mise en scène, mais du coup, ces pupitres sont vraiment les bases. En fait, on a voulu un peu jouer sur ce code-là où c'est quand même assez répandu de voir des comédiens derrière des pupitres. Et d'ailleurs, je trouve ça assez beau.
C'est des pupitres de musique. Hein. Voilà, je rappelle, pas des pupitres d'école.
Non, non.
Ah oui, oui.
Des pupitres de musique.
Oui, des pupitres de musique. Et du coup, en fait, on en a fait un peu. On a voulu se l'approprier, cette chose-là aussi, d'avoir des pupitres. Bah oui, on va faire une lecture, on a des pupitres. Mais à un moment donné, vu que notre travail ne s'est pas arrêté à cette lecture-là, Voilà, de la même manière, avec ces pupitres-là, on se les est appropriés et on en joue aussi, puisque, par exemple, à un moment donné, on en fait un petit castelet, on rapproche nos deux pupitres, on met un drap noir dessus et une fois derrière, voilà, on fait apparaître un petit théâtre d'objets. Donc voilà, de la même façon dont on a voulu s'approprier ces mots, bah, on s'est approprié cette forme-là scénique de deux pupitres, en fait.
Du coup, voilà, il y a la convention... Des pupitres naît la convention que on est là pour faire entendre des choses et à partir de là ça file tout seul.
Du coup il y a un mélange des formes théâtrales entre guillemets ou artistiques.
Disons, complètement. Puisque oui, on peut parler de performance par rapport à ce qu'on disait dans l'improvisation, la recherche au présent. Ensuite, on peut parler d'interprétation théâtrale au sens classique du terme, dans le sens où les deux poèmes qui commencent par aujourd'hui, que chacune on a, c'est des choses qu'on dit très simplement et qu'on dit comme si on était la personne.
On raconte, c'est un peu de l'ordre du conte aussi. Mm-hmm. Ou d'une personne qui raconte ce qu'elle a vécu aujourd'hui.
Du témoignage,
comme au théâtre, tout simplement, quand on s'approprie un texte. Et ensuite, voilà, avec ce petit castelet, on peut parler de théâtre d'objets, puisqu'on fait intervenir des objets qui prennent vie.
Alors un castelet, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'utilise pour les marionnettes.
Oui.
Et donc c'est l'espace scénique pour des marionnettes. Hein. Voilà, c'est le petit théâtre de la marionnette. On appelle ça un castelet. Tu parlais de travail de corps. Ça se traduit comment du coup? Il y a des passages un peu chorégraphiés
Pour l'instant, non. Mais c'est vrai que c'est une chose qui est née aussi... on l'a présenté... déjà une seule fois ce travail et on se laisse la possibilité vraiment de pouvoir le faire évoluer puisqu'en soi c'est pas vraiment figé, c'est pas un spectacle au sens premier qu'on jouerait dans un théâtre, donc on se laisse vraiment la possibilité de le faire grandir et c'est vrai qu'en termes corporels on sent vraiment qu'il y a des choses qu'on pourrait ajouter qui ne sont pas encore présentes, mais qui pourraient complètement prendre leur place.
Des rencontres corporelles qui iraient aussi dans le sens d'un fil qui lierait le tout. Pour l'instant, il y a ce qui lie la chose, c'est cette convention qu'on est là pour mm-hmm. donner à entendre ces mots-là. Après, on a aussi l'idée de partir sur une forme où il y aurait une genre d'histoire. Et à partir de là, le mouvement entrerait aussi dans cette histoire.
Vous me parliez tout à l'heure justement par rapport à l'amener sur une autre forme, pourquoi pas carrément en faire une création théâtrale, je mets des guillemets, ça se voit pas, et vous axez peut-être plus sur les auteurs féminins, parce que vous me disiez qu'en tant que femme, leur écriture faisait plus écho.
Mais oui, mais enfin ça c'est vraiment, même sans s'en rendre compte, c'était assez instinctif. Puisque les deux premiers qu'on s'est appropriés, c'est Dickinson, Mon cocon me serre, et Complainte de décembre de Novak. Et c'est vrai qu'il y a, chez ces figures féminines poétesses, des parcours de vie qui sont vraiment incroyables et assez opposés, mais
très forts,
tout en se retrouvant dans l'écriture de poésie. Du coup, donc c'est vrai qu'on est assez intéressé à l'idée de travailler sur ces deux femmes, comment les faire exister ensemble sur un plateau et écrire un spectacle à partir de ces deux femmes qu'on ne connaît pas. Enfin, Dickinson, elle est très connue. Enfin, elle est du 19e siècle. Donc, mais en même temps, on n'en entend pas beaucoup parler.
Ici, oui, c'est une auteure américaine, donc de la fin du 19e.
Mm-hmm.
Fin du 19e, je crois. Du 19e. Et qui était. Donc, qui a commencé à écrire très jeune. Et qui, petit à petit, s'est retirée dans un monde un peu intérieur. Et à un moment de sa vie, elle a décidé de plus sortir de chez elle. Et elle a écrit cette poésie qui est en même temps très, très intérieure, très vécue intérieurement et hyper transcendante, avec un espèce d'idéal, de hauteur, je sais pas. Et Novak, qui est, elle, du 20e siècle, qui a vécu, euh, qui est né en 1935, qui a vécu donc la guerre, le socialisme. Elle était est-allemande du coup. Elle est partie en Islande et elle a toujours été assez critique sur le régime, même si, sur le régime socialiste, même si elle y croyait vachement. Du coup, par ses écrits assez critiques, elle s'est fait destituer de sa nationalité est-allemande. Et voilà, elle a aussi été abandonnée très très quand elle était bébé. Et du coup, elle c'est vraiment une poète de l'exil, de pas de maison. Et du coup, il y a aussi des choses qui font que sa maison à elle, c'est son intérieur, l'intérieur d'elle-même. Du coup, il y a aussi des choses qui se retrouvent avec Dickinson sur cette chose intérieure.
Donc, du coup, on va essayer d'imaginer comment ces deux figures peuvent tisser un lien, peuvent se rencontrer. Donc ça, c'est dans cette idée-là parce que ces deux histoires vraiment extraordinaires et donc on aurait envie de mettre un peu en lumière ces deux personnages, ces deux poétesses.
Voilà, par leurs mots et du coup aussi une rencontre par nos corps, quoi.
Et du coup, dans le domaine de la poésie, mais pas que, quelles sont vos inspirations à chacune? Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré, enfin poussé dans cette forme-là, dans la poésie?
Moi, je sais que j'avais énormément envie de travailler avec... Enfin, moi, je suis un peu influencée par le côté performatif de la poésie performative contemporaine. Enfin, j'aime bien tout ce qui... une création qui essaie de trouver sa propre forme, en fait, sans aller dans un schéma de spectacle, ou comment on peut aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, trouver des nouveaux moyens de s'exprimer et sortir des sentiers battus et du coup écrire des formes qui soient les nôtres, en fait. Du coup, moi, je sais que...
Ouais, dans la poésie, il y a quelque chose qui est donc de l'ordre de l'universel, et je pense que c'est ça aussi qui nous pousse, et le travail du corps entre aussi là-dedans. C'est comme tu disais, explorer nos moyens d'expression. Mmh. Ouais.
Parce que du coup, nous, voilà, on est toutes jeunes comédiennes, on sort, ça fait quasiment 2 ans qu'on est sorties de la formation à Rancène, à Lyon, et à un moment donné, on se retrouve à vouloir travailler, à vouloir créer, et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on cherche, il faut qu'on explore, et déjà, on commence par ces mots-là, par ces formes-là, qu'on va chercher à y mettre des mots aussi, les nôtres.
Ouais.
Super. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs de se mettre à leur agenda. Donc, je redonne les dates, vous compléterez avec les horaires. Alors, il y a le 18 mars au Nombril du Monde. C'est à quelle heure?
Voilà, c'est à partir de 19h. C'est une soirée participative pour le Printemps des Poètes. Donc, on va présenter ça. Il y a aussi les élèves de l'école de théâtre de Lyon qui est dans les locaux du Nombril du Monde qui vont présenter des choses qu'ils ont travaillées. Ce sera Nazim Hikmet. Et donc, c'est ouvert aussi à tout le monde. Donc, si vous passez par là, vous pouvez venir aussi dire de la poésie. Et voilà, il y aura des choses assez différentes. Donc, c'est à 19h. Ça sera 19h à 23h.
Donc de 19h à 23h le 18 mars au Nombril du Monde. Ensuite, on peut vous retrouver le 20 mars à La Mouche m'agace l'oreille gauche. Donc c'est Montée de la Grande Côte.
Oui, donc c'est un café afghan associatif qui nous accueille. Donc c'est à partir de 20h. Et il y a plein de très bonnes choses à y déguster. Non, c'est très agréable comme lieu à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas.
Et ensuite, le 3 avril, à Agendar, qui est à Croix-Rousse, sur le plateau, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. C'est rue Belfort.
Et là, c'est à quelle heure?
20h aussi.
Ce sera à 20h aussi.
Les tarifs pour les trois, on est sur des entrées libres, par exemple au Café Afghan, c'est entrée libre.
Voilà, exactement. Entrée libre, on fera tourner un chapeau. Mm-hmm.
Après, oui, j'ai oublié de préciser qu'au Nombril du Monde, ce sera dans le bistrot qui vient d'ouvrir, qui est collé... Son entrée 28 rue des Tables Claudiennes.
Voilà, c'est l'entrée qui est rue des Tables Claudiennes. Voilà. D'accord. Eh bien voilà, vous pouvez donc retrouver ces dates et éventuellement réserver, alors peut-être pas à la mouche m'agace l'oreille gauche, mais à Agenda et au Nombril du Monde sur leur site internet respectif. Vous tapez leur nom dans Google et on tombe sur leur site tout de suite. Le chantier collectif, il y a un site internet, je ne me souviens plus.
Non,
on a une page Facebook, pour l'instant pas de site internet.
Donc vous pouvez aller visiter la page Facebook du chantier collectif, qui est un collectif de jeunes comédiens qui sortent d'Art en scène et voilà, et qui commencent à travailler et à se produire dans différents lieux. Avec différents projets. Je rappelle que vous n'êtes pas venu ici de façon anodine, puisque on est bientôt dans le printemps le printemps des poètes. Donc il y a plein de manifestations qui ont lieu. C'est, je crois, sur 3 semaines, si je me trompe pas. Trois semaines, un mois.
C'est du 7 au 22 mars.
Ouais, donc ça va être 2-3 semaines. Voilà, si vous aimez la poésie, ben continuez à l'aimer, allez-y. Si vous la connaissez mal, découvrez-la, parce que parfois on en a une image un peu vieillotte, on se souvient de la poésie qu'on étudie à l'école, mais il y a de la poésie aussi contemporaine, il y a plein de choses qui existent et qui sont merveilleuses, et donc chacun peut y trouver son style. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, on peut noter que du coup, oui, à Art en Scène, eux organisent une soirée bœuf poétique et on s'y est inscrite. On va présenter 10 minutes de notre projet. Et du coup, c'est entrée libre aussi, c'est le 13 mars à partir de 20h,
vendredi prochain.
Voilà un agenda fourni et je me permettrai, avant qu'on termine, on avait un peu perdu cette habitude de la petite chronique, alors ce sera pas une chronique mais ce sera une proposition de spectacle à aller voir cette semaine. En ce moment se jouent les Fourberies de Scapin au Clochard Céleste. Moi je l'ai vu, alors pas cette fois-ci mais l'année dernière, et j'avais passé un très très bon moment, il y a une très belle distribution. Ça se joue encore ce soir et demain et probablement dimanche, il me semble. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site des Clochards Célestes. Il y a également à la MJC Saint-Just un festival qui s'appelle Compagnie en Résonance. Ce sont les compagnies qui sont en résidence là-bas, qui présentent leur travail. C'est à partir d'aujourd'hui et c'est demain aussi. Voilà, il y a du spectacle jeune public, il y a de la marionnette, il y a du chant, il y a un peu différentes formes artistiques et samedi soir il y a un bal, alors je pense qu'il est ouvert à tous, donc s'il y en a qui ont envie d'aller guincher, c'est le moment d'y aller. Voilà, et peut-être Louise voulait rajouter quelque chose.
Cécile. Oui, je veux bien dire que lundi 9 mars, il y a un spectacle qui s'appelle Gynécée à l'espace 44 dans le cadre des
de la semaine de l'égalité.
Voilà, la semaine de l'égalité, c'est un spectacle d'une compagnie amie du chantier collectif. Donc Gynécée, et il me semble que c'est à 20h.
Quatre nanas qui disent des mots de femmes.
Oui, puisque bien sûr, on est autour de la journée aussi de la femme.
Aussi.
Puisque c'est le 8 mars.
Voilà.
Voilà, notre émission s'achève. Je vous remercie toutes les deux d'être venues.
Merci d'accueil.
Merci de nous avoir fait découvrir votre univers, ces textes. Et je vous invite à les réécouter, donc soit le 18 mars au Nombril du Monde, le 20 mars à La Mouche, m'agace l'oreille gauche, et le 3 avril à Agenda. Voilà, la semaine prochaine, c'est encore de la poésie avec une poétesse russe. Voilà, Marina Tsestavskaya, si je prononce bien. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.